Et on accueille tout de suite notre chroniqueuse Élisane Pellerin, professeure à l'Université du Québec à Montréal, docteur en sciences politiques, mais qui vient toujours nous parler à chaque semaine de, en fait, de sujets en lien avec des personnes qui sont, à, en fait, c'est-à-dire des sujets en lien avec des handicaps. Là, bon, voilà, j'ai pas bien dit les choses, mais c'est pas grave.
On a compris.
On a compris, c'est ça.
Voilà.
Oui, c'est parce que finalement, ben, Élisane et moi, on était occupés à parler, il faut le dire, un petit peu avant. Alors voilà, ça distrait un peu. Bonjour Élisane.
Bonjour.
Ça me fait plaisir toujours de te retrouver. Et puis aujourd'hui, tu nous parles, et on part dans toutes sortes de directions, tu nous parles de théâtre, de théâtre documentaire.
Oui, aujourd'hui on parle de théâtre documentaire, plus particulièrement de la pièce Rose et la machine, qui est une pièce de théâtre documentaire donc qui a joué en 2022-2023 et qui va reprendre quelques dates en 2024.
Oui.
Et il y a un livre qui est sorti donc en 2022 qui reprend le texte de Rose et la machine. Donc, pour ceux qui ne sont pas fans du théâtre, peuvent faire une petite lecture d'été avec les textes donc intégrales de la pièce. Et c'est un bon livre qui se lit facilement également. Donc, il y a plusieurs options là, pour cette pièce-là si on veut l'écouter, si on veut le lire.
Oui, et d'accord, pardon, et il y a aussi, je pense, un court-métrage qui a été fait aussi, hein, suite...
Oui, un court-métrage qui a été fait, en fait, sur les coulisses de Rose et la machine, donc sur la façon dont la pièce a été montée. Il y a différentes entrevues aussi dans ce court-métrage-là qui expliquent tout ce qui entoure la pièce. Il faut savoir que cette pièce-là, Rose et la machine, c'est Maude Laurendeau qui l'a écrite. Maude Laurendeau, qui est une comédienne québécoise qu'on a pu voir dans Yamaska, dans Nos étés, entre autres. Et Maude a une petite fille qui a été diagnostiquée donc de TSA, de trouble du spectre de l'autisme, alors qu'elle était jeune enfant. Et cette pièce-là va raconter, en fait, comment Maude a dû se battre contre le système là, pour avoir des services pour sa petite fille. Et ça explique, en fait, tous les obstacles qui vont être mis dans son chemin pour avoir des services les plus élémentaires, donc pour que la petite, entre autres, soit scolarisée, pour qu'elle ait des services d'orthophonie, des services aussi d'orthopédagogie, bon, tout ça. Et on voit que le système de santé actuel a quand même des problèmes. Et autour de ça, ben, on voit une maman qui essaie de, tant bien que mal, de comprendre son enfant et de s'adapter alors qu'elle n'était pas du tout, évidemment,
prête à ça.
Personne, je pense, n'est prête à ça dans l'optique où on ne le sait pas d'avance, bien sûr. Et donc, elle essaie de s'adapter à sa fille, elle essaie de trouver le juste milieu entre laisser sa fille être ce qu'elle est en tant que personne différente et essayer de la rentrer dans le moule pour que sa vie soit le plus facile possible, pour qu'elle puisse s'adapter à la société et qu'elle puisse vivre une vie la plus normale possible. Donc, c'est
normal,
vraiment de trouver la
le
balance
juste équilibre, ouais.
Pour un adulte qui est confronté à ça. On reprend tout dans la pièce et dans le livre, toutes les réflexions qu'elle a eues par rapport à ça. Et c'est une très belle pièce qui finit bien, qui est quand même ensoleillée. Ça a l'air lourd quand c'est ça comme ça, mais qui est quand même ensoleillée. Puis qui va à la fois montrer les travers de la société et à la fois montrer quelque chose de très beau, c'est-à-dire une maman et son enfant qui essaient de s'adapter et de se comprendre.
Oui, exactement. Il faut dire que, bon, d'une part, elle a été bien entourée parce que, alors, elle vit ses problèmes, ses difficultés, le choc, tout ça, et elle va s'apercevoir que c'est pas si simple, finalement. Et de là, bon, Rose est la machine, enfin, la machine étant le système de santé et puis, enfin, tous les intervenants
le
qu'elle
va rencontrer.
Le système
de santé, le système d'éducation.
Et le système d'éducation.
Et la société, plus largement, là, qui essaie de nous rentrer dans un moule là, quand on est un peu différent. Là.
C'est ça. Et puis, bon, puis les attentes des parents, et puis, bon, évidemment, c'est toujours du cas par cas aussi pour ces enfants-là. Il faut bien le reconnaître. Hein? Il n'y a pas un enfant qui a ce trouble du spectre de l'autisme qui est pareil. Alors,
On dit qu'il y a autant de troubles du spectre de l'autisme qu'il y a d'autistes. Donc, chaque enfant est différent puis chaque enfant a des besoins qui sont un peu particuliers alors que les services sont faits pour la plus grande majorité. Donc, on ne peut pas évidemment faire des services au cas par cas. Donc, il faut trouver, encore une fois, un ajustement entre ce qui convient à l'enfant et ce qui convient à la majorité parce que les services sociaux au Québec ne peuvent pas prendre un enfant à la fois. Donc, c'est vraiment un espèce d'ajustement qui est difficile à faire avec les enfants qui vivent avec le trouble du spectre de l'autisme parce que, justement, tu l'as dit, ils sont tellement différents les uns des autres.
Oui, exactement. Donc, ça rend les choses extrêmement complexes. Alors, donc, elle va partir avec ça, comme maman, là, et puis elle va documenter tout ça, finalement. Et là, bon, l'idée, peut-être, d'en faire du théâtre, finalement, du théâtre documentaire, bon, elle va rencontrer porte-parole qui, finalement, on pense à Annabelle Soutard, qui
oui.
A aidé aussi à monter J'aime Hydro avec Christine Beaulieu, également, tout inclus, qui parlait de la situation des aînés en RPA.
Oui.
Donc, ça, c'est... Donc, ce sont des gens qui sont vraiment spécialisés en théâtre documentaire. Donc, le théâtre documentaire, c'est intéressant parce que c'est... bon, on est dans la réalité là, d'un sujet très précis. Et puis, oui, c'est vraiment très particulier aussi. Je pense que c'est intéressant d'aller sur le site, d'en savoir davantage sur qui est Annabelle Soutard, qui sont ces gens. Alors, donc, cette dame qui va partir, qui va rencontrer les gens de porte-parole, et puis là, c'est là que ça va... que ces gens-là vont l'aider à monter la pièce.
Oui, Annabelle Soutard, qui est quand même reconnue mondialement là, pour le théâtre documentaire. Il y a le théâtre documentaire qui est un théâtre, mais qui se fie à la vraie vie. Donc, ce sont les vraies conversations de Maud Laurenteau qui ont été enregistrées, qu'on reprend dans la pièce, qu'on reprend dans le livre. Donc, évidemment, il y a toute une mise en scène qui a été bien faite par Edith Patnaud autour de ça. Donc, on n'a pas l'impression d'être dans une conférence ou dans rien de tout ça. Il y a vraiment un décor et puis des scènes qui sont très bien faites. Mais ce sont les vraies conversations qui ont été enregistrées. Et donc, c'est ce qu'on appelle du théâtre documentaire. C'est particulier, mais en même temps, ça montre vraiment... avec une réalité très fidèle, ce qui se passe dans la vie de ces gens-là. Et effectivement, Maud Laurenteau, quand elle a vu les obstacles auxquels elle faisait face, et elle n'est pas la seule, bien sûr, elle a rencontré, puis on le voit dans la pièce et dans le livre, d'autres parents qui ont témoigné, des intervenants aussi qui ont témoigné des différents obstacles auxquels ils font face. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait vraiment matière à ce point-là parce que tout le monde se retrouve plus ou moins dans ce qu'elle dit. Et c'est vraiment une réflexion sociale qu'on a à faire sur quelle est la pièce de ces enfants-là qui sont différents dans la société. Donc, effectivement, elle est allée voir Annabelle Soutard pour lui proposer la pièce et ils ont monté ça ensemble et ça donne quelque chose qui est fantastique, qui est lumineux et qui remet en question chaque personne, je pense à la salle et chaque personne, chaque lecteur de mon livre va se remettre en question par rapport à ce que Maud Laurenteau propose
en quelque sorte, c'est ça, exactement. Donc, ça amène une réflexion, chez les gens qui ne sont pas nécessairement touchés par ce problème-là, finalement, qu'ils ne l'ont pas vécu et qui ne le vivront peut-être jamais. Mais en fait, c'est vraiment de voir aussi quelle est la réalité d'aujourd'hui. Maintenant aussi, de mettre je pense aux autres parents qui vivent cette situation-là, parce que c'est extrêmement anxiogène, si on veut, quand arrive le diagnostic. Alors, la pièce, évidemment, c'est très éclairant aussi pour ces gens-là. Donc, il y a eu, j'imagine, beaucoup d'échanges suite, parce qu'il y a toujours des discussions suite à la présentation de la
oui.
pièce en général. Alors, les parents qui vivent un peu la même situation, c'est un moment d'échange incroyable, finalement.
Oui, en fait, après les pièces, effectivement, Madame Laurenteau et Julia Breton, là, qui est la deuxième comédienne sur scène, qui joue tous les autres personnages, alors que Maud Laurenteau va se jouer elle-même. Ils viennent à la fin pour ouvrir la discussion. Et ça va bien au-delà des parents qui sont parents d'enfants avec un trouble de l'autisme. On parle de la différence beaucoup plus largement. Hein, comment on s'adapte en tant que personne qui est différente, en tant que personne qui ne sent pas qu'elle fit dans le moule. Il y a différentes personnes qui peuvent se sentir comme ça, hein? Pas juste simplement
non,
les personnes.
Non, on en a déjà parlé, bien sûr, oui.
Et donc, toutes les personnes qui sont pas exactement ce qu'on attend d'eux socialement vont sentir cette pression-là et tous les parents vont essayer de, comme je le disais, de trouver la balance entre intégrer l'enfant et laisser être lui-même. Donc, effectivement, ça pousse à réflexion en tant que société, à savoir jusqu'à quel point on doit se conformer pour être capable de vivre socialement, pour être capable de s'intégrer et jusqu'à quel point on peut rester nous-mêmes, au contraire. Donc vraiment, Je pense que tout le monde se retrouve dans ces questions-là.
Mais tout à fait, tout à fait. Puis d'ailleurs, bon, ici, je pense que c'est notre mission, nous, on parle de beaucoup d'inclusion. C'est vraiment notre raison d'être, en quelque sorte, ici à Canal M. Mais en fait, bon, c'est intéressant de savoir, avant qu'on aille à la pause, Julie Le Breton, elle avait déjà un lien avec... C'est sa belle-sœur.
Oui, c'est sa belle-sœur. c'est la marraine de la petite Rose, qui est la première enfant de Maud Laurendeau, qui aurait eu une petite fille par la suite. Donc, effectivement, elle est très touchée de ça. Elle a vécu tous les défis de Maud Laurendeau de près, hein, parce que étant la marraine de la petite, et ils ont décidé de faire ça ensemble, mais ça donne à la pièce quelque chose de très intime, parce qu'elles savent toutes les deux au travers de quoi elles sont passées. Et Julie Le Breton étant une comédienne très reconnue, une comédienne d'exception, il faut le dire, elle joue quand même 43 personnages dans la pièce.
Oui.
Et elle le fait de façon magistrale. Donc, je pense que Julie Le Breton a pu apporter un éclairage à sa façon, à cette pièce-là, et apporter de la publicité dont on avait bien besoin pour cette pièce-là, parce que je pense qu'il fallait la faire rayonner le plus largement possible, parce qu'elle est tout à fait pertinente.
Oui, tout à fait. Et puis, de toute façon, elle a été aussi récompensée pour son rôle.
Oui, il y a eu plusieurs récompenses pour le rôle de Julie Le Breton et plus largement pour la pièce. C'est une pièce qui est très bien faite et qui enchaîne, tous les prix et toutes les reconnaissances.
Oui,
c'est effectivement, il est extrêmement pertinent.
Bon. Élisane, on continue à jaser après la pause. Tu restes là. À tantôt.
Vous écoutez Aime l'été.
Bon, alors, on était de retour avec Élisane Pellerin, notre chroniqueuse, qui nous parle toujours de sujets, en lien avec des situations de handicap. Et puis, là, on parlait de la pièce Rose et la machine, qui n'est pas présentée présentement, là, mais en fait, elle l'a été en 2022 chez Duceppe, et puis elle a été présentée en tournée en 2023. En fait, il y a des dates qui sont prévues aussi en 2024. Alors, ça va continuer de toute façon. Allez sur le site, et puis vous allez tomber sur des dates à venir, ça c'est sûr. Rose et la machine, et ça c'est une production en fait de porte-parole, évidemment.
Oui.
ce groupe spécialisé en théâtre documentaire avec Annabelle Soutard qui a participé étroitement à toutes ces créations. Là on pense à M. Hydro, J'aime Hydro et aussi Tout Inclus, voilà, et Rose et la machine, enfin de beaux projets, évidemment, théâtre documentaire comme on le disait, qui est très investi dans la vraie vie, parce que comme tu le disais, Élisane, ce sont des tout est documenté dans le sens que c'est pas inventé, là, c'est pas des un scénario, c'est pas des textes, c'est vraiment des textes qui sont issus de
vraies conversations, qui ont été enregistrées, et puis on a fait un livre aussi avec ça, donc pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer au théâtre peuvent toujours accéder au livre de façon à la fois électronique et au livre papier. Donc il y a différentes façons d'entrer en contact avec cette pièce-là, mais effectivement pièce qui va mettre en scène les vraies conversations de Maud Laurendeau par rapport à sa petite fille, à l'intégration de sa petite fille tant dans le système de santé que dans le système scolaire, et qui va donner des exemples absolument farfelus, à la fois drôles et tragiques.
Oui, de ce tu peux nous donner des exemples d'ailleurs.
De ce qu'elle va vivre, donc. Il y a Petite Rose qui, par exemple, arrive à l'école la première journée et qui fait face à des toilettes automatisées, donc qui sache tout seul. Et donc, elle a extrêmement peur de ce bruit-là, la pauvre cocotte, et donc ne peut pas aller aux toilettes. Et quand Madame Laurendeau dit « Écoutez, il va falloir trouver une solution », ben tous les intervenants sont en rentrée scolaire, ça bouge, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup
personne
n'a le temps.
Ouais.
Et donc, elle dit « Oui, mais bon, ma fille doit aller aux toilettes », et on lui répond « Ben écoutez, on fera un plan d'intervention dans les prochains mois ». Et à la fois, les intervenants sont débordés, à la fois, on a une maman qui dit « Oui, mais bon, moi, ma petite fille a besoin d'aller à la salle de bain de façon régulière ». Donc, c'est un des exemples parmi tant d'autres qui montrent à quel point c'est absurde, mais à quel point, pour un enfant, ça peut devenir extrêmement compliqué de faire une journée d'école.
Oui, exactement, parce que bon, surtout quand ces enfants-là sont jeunes, là, quand on les intègre à l'école, ça doit être extrêmement complexe. Et puis donc, elle décrit toutes sortes d'anecdotes.
Toutes sortes
ça.
De situations où sa petite fille a été confrontée à d'autres enfants qui sont pas nécessairement... au courant de ce qu'elle a, puis pas nécessairement capable d'aller par devant sa différence. Donc, c'est le seul enfant qui sera pas invité, par exemple, à une fête d'un collègue de classe. Tous les autres vont être invités et elle va se rendre compte qu'elle n'a pas d'invitation dans son casier alors que tous les autres en ont un. Ce genre d'anecdote-là, à la fois, comme je le disais, drôle et tragique, mais qui nous montre à quel point un enfant tout jeune, qui a 5 ans, essaie de s'intégrer et comment les autres enfants, en étant des enfants, ne comprennent pas nécessairement. Et parfois, même les parents, on va avoir accès à différentes conversations avec les parents qui sont maladroits. Les autres parents qui essaient de comparer Rose à leur propre enfant, qui ne comprennent pas pourquoi Rose n'est pas aussi verbale qu'eux, pourquoi elle n'est pas aussi au niveau moteur aussi développée, et qui vont maladroitement poser des questions et faire des commentaires sur la petite fille qui ne se veut pas méchante, mais qui devient lourde là, pour les parents, et bien sûr qui montre à quel point on est en tant que société très timide par rapport à la différence, c'est très mal à l'aise par rapport à la différence. Comment on ne sait pas réagir par rapport aux gens qui sont différents de nous?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, les gens qui sont en fauteuil roulant, quelqu'un, tu nous as parlé de toi-même aussi, à quel point, tu as vécu des situations un peu cocasses à la
fois.
Oui,
voilà.
Mais, tu as pris ça en riant, mais au fond, c'était pas si drôle que ça. C'est-à-dire de penser que quand tu te présentais dans un hôtel, les gens pensaient que tu étais ivre, alors on ne voulait pas te louer une chambre. C'est pas tout le monde.
Dans un hôtel, entre autres. C'est sûr que pour nous, là, juste aller faire une épicerie, hein, ça peut être quelque chose d'un peu rock and roll, là, pour différentes raisons, hein, parce que les gens ont des commentaires, parce qu'on essaie de faire de notre mieux, mais c'est pas toujours adapté, parce que on essaie de vivre notre vie, mais il y a différents obstacles sur le parcours qu'on n'avait pas vu venir en se levant ce matin-là.
Puis on te remet toujours devant cet état de...
Totalement. Les gens, encore une fois, ne veulent pas mal faire, mais sont parfois très maladroits envers moi et envers les gens qui sont comme moi, donc qui sont différents. Ils vont essayer de montrer une certaine compassion, mais de façon un peu étrange. Ouais. Donc, ça donne des choses qui sont à la fois très cocasses, mais qui peuvent être lourdes à la longue.
Quand
8h15 le matin, puis tu t'en allais chercher une peine de lait, puis qu'il y a quelqu'un qui vient te voir pour te dire comme « Mon Dieu, t'es belle, c'est dommage que tu sois handicapée », ça peut être lourd à la longue.
Oui, exactement. Donc, ou penser que tu marches croche, mais bon, la personne peut penser « Mon Dieu... »
Elle
est ivre, parce que ça peut sembler aussi la façon de parler. Y a Anaïs Sabourin, notre chroniqueuse et recherchiste aussi à l'émission, qui, elle, est en fauteuil roulant. Donc, elle aussi se fait constamment placer devant sa situation. Et puis, par exemple, ça peut être des enfants qui posent une question et puis les parents qui sont un peu maladroits.
Oui, voilà, les enfants, généralement, sont beaucoup plus à l'aise.
Ils sont plus spontanés.
Vont poser une question.
Ouais.
Généralement, là, c'est très gentiment et on a tendance, nous, et je ne veux pas parler pour les autres, mais généralement, on a tendance à répondre aux enfants
le plus naturellement.
Naturellement possible. Alors que ça nous dérange moins, en fait, qu'un enfant nous pose la question plutôt qu'un adulte qui vient poser un commentaire qui est parfois plein de jugement. Mais effectivement, on voit les adultes là, qui sont catastrophés qu'un enfant nous adresse la parole, qui vont le tirer par l'arrière et puis qui vont
dire, laisse faire, là. Au lieu de dire, va poser la question à la dame et puis elle va te répondre, c'est bon.
Donc, c'est souvent avec les parents qu'on a ce type de situation-là, mais bon, il faut s'y faire, hein, ça fait partie de notre quotidien.
Ouais.
Mais en même temps, effectivement, comme je le disais, ça peut devenir des journées où tu te sens moyennement bien et où tu as besoin de sortir quand même parce que tu as besoin de quelque chose à manger puis d'être confronté à 5, 6, 7, 8 commentaires alors que tu te sens pas bien parce qu'il est arrivé quelque chose dans ta vie. Ça peut être difficile là, à faire face. Là.
Mais en fait, comme toi, tu es professeur d'université, donc tu rencontres des jeunes de toutes sortes aussi. Hein?
Oui.
Tu n'es pas la seule sur le campus, forcément. Et puis, tu deviens un modèle aussi, en quelque sorte. Tu peux inspirer d'autres jeunes, évidemment, qui sont rendus à un niveau universitaire, qui ont déjà pas mal bataillé,
pour
arriver là.
Oui, il faut batailler, mais bon, je fais aussi de la suppléance dans des écoles primaires et secondaires, donc effectivement, ça m'arrive là, que des jeunes viennent me voir, que des parents viennent me voir là, pour me demander comment j'ai fait là, pour en arriver là, être encore en un morceau. Et effectivement, ça a été un combat pour moi. Je pense que ça a été un combat pour toutes les personnes qui sont différentes d'une façon ou d'une autre. Dans le système scolaire actuel. C'est sûr que tant mieux si on peut ouvrir les portes. Je pense que plus il y a de personnes différentes dans les classes, et plus on ouvre les portes.
Tout à fait, c'est
et
ça.
Et on arrive à faire changer les choses, faire changer les mentalités, ce qui fait en sorte que les professeurs et tous les intervenants sont moins surpris la fois d'après. Voilà. Donc, il faut quelqu'un qui défonce la porte, et tant mieux si je l'ai fait à quelques reprises, et il y en a d'autres qui l'ont fait pour moi, et je le ferai pour les prochains, et je pense que c'est une chaîne qui continue de génération en génération. On arrive à être de plus en plus ouvert, et les choses changent quand même.
Ah oui, ça évolue, bien
ça
sûr.
Ça évolue, on va de mieux en mieux dans tout ça. Effectivement, c'est là, mais je pense que tous les changements sociaux sont là. Donc, il faut prendre notre main à la patience, puis il faut faire notre part des choses comme on le peut. Donc, tant mieux si j'y arrive, tant mieux si d'autres y arrivent avant
Tout
et après moi.
Puis on aura l'occasion d'en reparler, Élisane. Alors, vraiment, Rose et la machine, hein, ce théâtre à suivre. Et puis voilà, beau sujet aujourd'hui. Merci, Élisane. On se retrouve la semaine prochaine.
Merci, à la semaine prochaine.
Au revoir.